D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Le plus célèbre voyage d'Oscar Wilde à l'étranger a eu lieu aux États-Unis. Il avait 26 ans, il était déjà célèbre dans les milieux littéraires et mondains de l'Angleterre. Et il est parti pour faire une tournée de conférences. À la douane de New York, il passe pour avoir dit « Je n'ai rien à déclarer que mon génie ». Il parle à des femmes à face à main et col de dentelle. Il enchante un public de mineurs de fond à Leadville. Il rencontre Walt Whitman. Il invente, car je suis sûr que c'est lui qui l'a inventé, l'expression « ne tirez pas sur le pianiste » qu'il dit avoir vu dans un saloon. Il revient en Angleterre encore plus célèbre. Cela, c'est son voyage le plus tapageur. Le premier de ses voyages avait été à Paris, comme le sera son dernier. Ce premier voyage à 20 ans, en juillet 1874, il le fait avec sa mère et son frère. C'est sa mère qui l'a voulu, car il était de bon ton pour des jeunes gens de ce qu'on appelait alors la bonne société de visiter Paris. Wilde y est revenu plusieurs fois, rencontrant ce qu'on appelle aussi tout le monde, c'est-à-dire les gens intéressants. Pas les industriels, ni les financiers, ni les gestionnaires qui ne portaient alors pas ce nom, mais les écrivains, les artistes, les actrices. Ah, les actrices. La plus fameuse du monde à ce moment-là, et si fameuse qu'elle le reste 100 ans après, était Sarah Bernhardt. En 1879, elle interprète Phèdre à Londres. Comme elle s'apprête à repartir pour Paris, sur le quai de la gare, parmi une foule d'admirateurs, un jeune homme jette à ses pieds une brassée de lys. Il crie « Il pipi pourra pour Sarah Bernhardt !» Et Sarah Bernhardt, qui raconte ceci dans ses mémoires, écrit, je cite, « Sa tête dépassait toutes les autres têtes. Ses yeux étaient lumineux, ses cheveux longs. Il avait l'air d'un étudiant allemand. C'était cependant un poète anglais, un des plus grands de ce siècle. Poète plein de génie, mais hélas, tourmenté et vaincu par la folie, c'était Oscar Wilde. La foule répondit à son appel et nous montâmes dans le train poursuivis par les « Hippipipoura » pour Sarah Bernhardt. Wilde avait 24 ans, il reverra bientôt Sarah Bernhardt à Paris et c'est sans doute lui qui lui a rappelé cet exploit d'admirateur car comment une femme plus fêtée que tous les rois du monde pourrait-elle se rappeler tous les gestes d'adoration envers elle ? C'est à ce moment-là que l'empereur d'Allemagne lui fait une demande. Il serait heureux qu'elle vienne jouer devant sa cour. Et que fait répondre Sarah Bernhardt ? Bien volontiers, ce sera 3 milliards. C'était le montant des réparations de guerre imposées par l'Allemagne à la France après la défaite de 1871. Cette insolence ne pouvait qu'amuser Wilde, qui s'est amusé à être insolent avec parfois beaucoup d'imprudence. Il s'ouvre d'ailleurs à Paris, au Petit Palais, une exposition sur lui, la première à lui être consacrée dans notre ville, Oscar Wilde, l'impertinent absolu. C'est du 28 septembre au 15 janvier prochain. Wilde est revenu en voyage de noces à Paris en 1884, puis pour plusieurs visites par an, en 89, 91, 92, 93 et après sa condamnation en 1897 pour y rester jusqu'à sa fin avec quelques escapades en Italie et en Suisse. Quel est le secret professionnel d'Oscar Wilde à Paris ? Je reçois pour en parler Christophe Leribaud, directeur du musée du Petit Palais. Christophe Leribaud, Wilde est célèbre par son talent, mais le talent n'y suffirait pas. Hélas, il a aussi fallu ses malheurs. Dans la première partie de l'émission, je voudrais qu'on parle d'Oscar Wilde avant son procès et après, on parlera de la période un peu plus triste à Paris après son procès. Alors, qui était sa mère, cette femme qui signait Speranza, qui l'a amené à Paris tout jeune homme ?
Alors, c'était une Irlandaise, même une passionnariat de la cause irlandaise. Les parents de Wilde étaient tout à fait passionnants et engagés. Son père était un grand médecin. Il a fait beaucoup de recherches aussi sur le folklore irlandais. C'est un personnage très complexe. Et sa mère également, qui a beaucoup écrit, qui s'est mis en avant pour cette cause. Et donc, il avait hérité quand même d'un certain atavisme familial.
C'était une grande agitée, non, sa mère ?
On peut dire ça comme ça. On peut le dire de cette manière, effectivement.
Alors, sans faire le détail de sa progression à visite après visite, et en particulier dans les milieux artistiques, car au fond, il a connu les gens importants très vite, je voudrais que nous nous intéressions aux gens importants que précisément il a rencontrés. Je crois qu'un des plus importants était Mallarmé.
effectivement, il avait une grande admiration pour le Mallarmé. Il ne le rencontre pas durant son premier voyage, mais en 1891. Et à l'exposition, on a la chance de montrer deux lettres qui viennent d'entrer dans une collection particulière et peuvent être présentées, ou qui accompagnent l'une un exemplaire du portrait de Dorian Gray qu'il envoie très cérémonieusement à Mallarmé, en lui déclarant toute son admiration, en disant que qu'il n'y a en France, la poésie a beaucoup de laquais, mais un seul maître. Et puis Mallarmé lui répond et lui retourne sa traduction du Corbeau d'Edgar Allan Poe, illustré par Manet, c'est un beau présent. Et ensuite, il l'admettra dans son fameux salon de la rue de Rome. Mais on sent quand même que Mallarmé a eu peut-être quelques réticences. Il faut dire qu'elles étaient sans doute alimentées par le peintre Whistler, très proche de Wilde au début, et ensuite ils se sont brouillés à mort. Et Whistler et Mallarmé étaient vraiment très proches. D'ailleurs, il y a une très belle lithographie de le représentant, et donc n'a pas tellement plaidé sa cause.
Et les lettres que vous montrez, les deux lettres dont vous parlez, ont été déjà exposées ?
Je ne pense pas, non. Elles sont émouvantes, écrites bien sûr en français, puisque il parlait très très bien la langue.
Et donc c'est la première fois qu'on les montre. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres manuscrits inédits qui sont montrés dans l'exposition ?
Un certain nombre de correspondances, de pages inédites aussi, de grandes œuvres, beaucoup de manuscrits, pas seulement des manuscrits, puisque c'est un petit peu plus difficile à suivre, mais aussi des enregistrements pour pouvoir mieux apprécier la richesse de ces textes. Même si l'exposition montrera aussi des peintures, des photographies, beaucoup d'autres choses, il faut quand même toujours montrer les grands textes, donc aussi bien le manuscrit du portrait de Dorian Gray que Salomé, enfin les œuvres majeurs qui ont jalonné sa carrière.
Vous parlez, Christophe Leribaud, d'enregistrement, mais je présume qu'il n'y a pas d'enregistrement de la voix de Wilde.
Non, malheureusement, mais ça permet de rêver davantage.
Donc ça sera des enregistrements d'acteurs, c'est ça ?
Oui, Rupert Everett.
Et comment est l'écriture de Wilde, puisque vous parlez de ces manuscrits qu'on voit dans l'impertinent absolu ?
Alors très lisible, en fait. De même qu'il avait certainement une belle élocution et un phrasé intéressant, l'écriture est remarquablement lisible, assez artiste. Il utilise beaucoup de papier et les lignes sont très espacées.
Alors, en dehors de Mallarmé, il passe aussi pour avoir rencontré Zola. Est-ce qu'on en sait ? Est-ce qu'il y en a une recension très précise ?
Alors, il a rencontré un certain nombre de sommités, à commencer par Victor Hugo,
mais... Et Victor Hugo, ça, comment ça s'est passé, on le sait ?
Chez lui, Place des Vosges. Voilà. Mais pour Zola, ce que l'on sait malheureusement, c'est qu'après le procès, la déchéance de Wilde, Zola n'a pas pris du tout sa défense. Il avait quand même une certaine raideur conventionnelle.
Il a rencontré la même année que Zola Coquelin, l'acteur, et si vous me permettez, je voudrais citer une conversation qu'ils ont eue tous les deux, apparemment authentique. Coquelin lui demande « Qu'est-ce que la civilisation, Monsieur Wilde ? L'amour du beau. Et qu'est-ce que c'est que le beau ? Ce que les bourgeois appellent le laid. Et ce que les bourgeois appellent le beau. Cela n'existe pas. » Il a aussi rencontré à ce moment-là, et ça on le sait par leur journal, les Goncourt, n'est-ce pas ?
Oui, alors évidemment, quand on sait quelque chose par le journal des Goncourt, c'est toujours à travers des remarques acides. Il a essayé, faisait partie aussi un petit peu de son autopromotion. Il est d'abord, dans ses premiers voyages à Paris, il n'était pas connu du tout, sa poésie n'était pas traduite. Ensuite, il reviendra plus tard comme un auteur adulé, mais il a besoin de rencontrer toutes les sommités. Alors il se liera évidemment avec certaines personnalités comme André Gide ou Pierre Louis, avec lesquels il a plus d'affinités. Et puis les Goncourt, qui évidemment auront un peu de curiosité pour lui, d'autant que Wilde est très passionné de Manet, Salomon, d'autres ouvrages, mais ce sera, je ne pense pas, véritablement fusionnel.
Alors, je voudrais qu'on en vienne maintenant à celle que je citais dans mon introduction et qui a eu une importance plus que relative dans sa vie, qui est Sarah Bernhardt.
La rencontre, évidemment, de deux monstres sacrés, ça fait rêver. Il écrit donc pour elle le texte de Salomé en français. Elle doit le créer à Londres et malheureusement, au cours des répétitions, on apprend que la pièce est interdite pour la raison qu'on ne devait pas représenter des scènes bibliques au théâtre, qui est vraiment une grande déception, mais ça n'empêchera pas de publier la pièce, d'avoir évidemment un grand succès avec cette pièce éminemment scandaleuse quand même.
Scandaleuse en quoi, hein ?
le baiser la tête de Saint Jean-Baptiste décapité, etc. Enfin, on peut imaginer quand même que c'est quelque chose qui reste assez fort. Mais ça participera plus tard, évidemment, à la renommée posthume de Wilde, et puis aussi à travers l'opéra de Richard Strauss.
Alors, ce qui est important, comme vous l'avez dit, c'est que, un, Wilde parlait français, mais il écrivait le français. Alors, comment ça s'est passé, l'écriture de cette pièce? Car je crois que plusieurs écrivains franco-américains et français sont intervenus dans l'écriture.
Alors, il a demandé à Pierre-Louis d'en corriger les épreuves. Et d'ailleurs, en remerciement, il dédiera la pièce à Pierre-Louis, avec qui, ultérieurement, il se fâchera. Et puis ensuite, il y a cette question de la traduction en anglais, que curieusement, il n'entreprend pas lui-même. Et c'est Lord Alfred Douglas qui est en train de le réaliser. Le fera a priori assez mal. Donc Wilde proposera beaucoup de corrections, ce qui vexera Douglas. Malheureusement pas à mort, puisque oui, leur liaison durera. Parallèlement, le dessinateur Audrey Beardsley avait tenté lui aussi une traduction, puisqu'il, par ailleurs, il illustrait le volume, et c'est la traduction de Douglas qui est parue.
En réalité, je crois que pour la pièce en français, avant Louis, qui était très jeune, qui avait 21 ans à l'époque, sont intervenus Stuart Merrill, qui était le poète franco-américain, qui a un peu nettoyé, et puis le poète symboliste bien oublié, mais qui était assez bon pourtant, qui était Adolphe Rété. Et il faut dire que Pierre Louis avait une importance déjà très importante dans le milieu littéraire français à l'époque.
Oui, c'est aussi quelqu'un qui a pu introduire Wilde auprès d'autres célébrités, mais ils se sont assez vite brouillés, comme je l'ai dit. Il faut dire qu'en 1893, Louis est à Londres, il assiste à la première de la pièce A Woman of No Importance, et il aura le mot A Play of No Importance, et Wilde s'est un peu vexé, comme on pouvait peut-être l'imaginer, mais au-delà, Louis aura quand même une forte réticence face à la vie personnelle de Wilde, et s'en écartera. Il ne lui viendra pas en aide après sa libération et son installation à Paris.
Si vous me permettez, c'est la parenté entre Pierre-Louis et Marion Maréchal Le Pen, qui est, comme vous savez, qui a récemment divorcé après avoir fait l'éloge du couple chrétien et du modèle chrétien de la famille pour les enfants, en particulier en disant que le mariage gay était une abomination. Elle vient de divorcer après 2 ans de mariage. On apprend qu'elle n'était pas mariée et qu'elle vivait avec un homme. Donc voilà ce qu'on peut opposer à ces gens qui sont des grandes personnes morales. Et le point commun avec Pierre-Louis, c'est que Pierre-Louis était un érotomane qui piquait les femmes de ses amis. Enfin, et ça lui donnait aussi l'occasion d'être d'une haute moralité pour les autres. Un critique d'art, c'est-à-dire un de vos confrères, au moment du procès de Wilde, au moment où il a été arrêté, a dit « il perdra car il aura contre lui des gens qui ont des mœurs pires que les siennes ».
Wilde, lui, était marié et père de famille.
Et d'ailleurs, je crois que l'exposition est faite en liaison avec son petit-fils.
Absolument. Merlin Holland, qui est très érudit, qui a vraiment été des chevilles ouvrières du projet, avec Dominique Morel, commissaire et conservateur au Petit Palais, qui est vraiment un pilier et une référence pour les études wildiennes.
Est-ce qu'il y a des choses de Louis et de Sarah Bernhardt et de Salomé dans l'exposition?
Bien sûr. Il y a des ouvrages dédicacés aux uns aux autres, des correspondances, une salle consacrée à Salomé, et puis aussi tout ce mythe de Salomé et sa résurgence dans ces années-là, avec des illustrations de Beardsley, mais aussi des tableaux d'autres artistes. Gustave Moreau, bien sûr, dont probablement c'est la fascination des œuvres de Moreau qui a donné envie à Wilde de se lancer dans ce projet, mais qui est un sujet récurrent à l'époque, puisque Mallarmé compose son Hérodiade à peu près au même moment.
Avant ou...
Tout dans les mêmes, dans le même, années.
Et Moreau est antérieur, le tableau de Moreau
De très peu.
De très peu. Alors nous allons maintenant entendre un très rare enregistrement. Paul Fort, le poète, raconte l'enterrement d'Oscar Wilde. La sépulture de Wilde se trouve aujourd'hui au Père Lachaise, mais elle a d'abord été à Bagneux, et ils étaient très, très peu nombreux à suivre son cortège, et Paul Fort raconte une stupéfiante scène d'Alfred Douglas se jetant dans la fosse.
La radiodiffusion française vous présente Entretien avec Paul Fort. Propos recueillis par Michel Manol.
vous dire que son enterrement ne fut pas, à mes yeux, très satisfaisant. Ceux qu'il avait aimés, des littérateurs, dont un grand, André Gide, je ne l'attaque pas, mon André Gide, bien sûr que non, mais enfin, il brillait par une absence absolue. C'est qu'il était très discuté, même dans le monde des lettres où quelquefois il y a une vague de bravoure et quelquefois une vague, sinon de lâcheté, n'est-ce pas, de prudence bourgeoise, là, je pense. Monsieur Arméril, le courage même, n'est pas venu. Il a envoyé sa femme. En tout cas, je n'y ai vu qu'un seul littérateur, deux. Marcel Batilla, un petit romancier de l'époque, mais fort charmant, qui est venu de Versailles exprès, et puis le traducteur d'Avray, Henri d'Avray, excellent homme aussi, de beaucoup du Mercure de France, etc. Bon, nous avons été là-bas à l'église, je crois, à peu près 18 à 20, mais pas plus, et très peu de littérateurs. Il y avait son ami Ross, Robert Ross, venu d'Angleterre, et Lord Douglas. Ça nous faisait un contingent de 2 heures complets. Et quand nous sommes partis vers le cimetière, nous étions 13. Et quand nous sommes arrivés à Bagneux, à travers une petite pluie battante, nous n'étions plus que 6. Il est arrivé une chose tragique, là, sur quoi nous ne comptions pas et qui était un peu héroïque, comique plutôt. Lord Douglas, pris de sanglots, lorsque on déposa au fond de sa tombe, de sa fosse, Oscar Wilde, il s'est jeté dedans. C'était très embarrassant, très ennuyeux, très bizarre. Nous avons cru d'abord qu'il avait glissé, mais pas du tout. Il s'est jeté sanglotant et faisant une sorte de Christ tombé, une croix sur le... Je lui ai repris la main, ainsi qu'un des fossoyeurs, et puis on nous a tirés par derrière, et enfin nous l'avons, lui, tiré tout boueux. Et pendant, il était assez, comme je le dis souvent, par des gens qui sont extrêmement élégants, il était un peu cigare de luxe, n'est-ce pas? Et il était bien abîmé. Quand nous repartîmes, nous n'étions plus que ma femme, Madame Merrill, lui, le boueux, Douglas, Robert Ross et moi. Si, qui fait les 6 dont vous parlez. Nous sommes loin des enterrements de Hugo et aussi glorieux de Verlaine.
Mais vous avez parlé, mon cher Paul Fort, des années glorieuses, si l'on peut dire, d'Oscar Wilde. Mais vous l'avez aussi connu après les dures années qu'il a vécues comme convict en Angleterre. À ce moment-là, était-il resté l'éblouissant dandy que vous venez d'évoquer?
Vous voulez dire quand il venait nous rejoindre au De Mago, justement.
C'est ça, quand il habitait rue des Beaux-Arts.
Au De Mago, c'est-à-dire à la première formation, j'y tiens, de Saint-Germain-des-Prés. Ça a duré au moins 3 ou 4 ans, ça compte.
Et pourrait-on trouver son tombeau encore au cimetière de Bagneux?
Non, il a changé de cimetière. Et puis alors, vous allez me gronder parce que dans quel cimetière, me rappelle, je crois que c'est au Père Lachaise qu'on a retransporté.
Son corps a été jeté à la fosse commune?
Non, je ne crois pas.
Vous ne croyez pas?
Mais pourquoi? Mais non, on doit le retrouver.
Alors, Christophe Fleuribaud, je voudrais que maintenant nous passions à la triste deuxième partie de la vie de Wilde et de Wilde à Paris. La deuxième partie, c'est la prison, où il fait, comme nous savons, des travaux forcés, rien moins que ça. Puis il est libéré, puis après sa libération, il vient en France, n'est-ce pas?
À Berneval, en Normandie, tout d'abord, dans un tout petit hôtel d'un village pour être un peu à l'abri, pour reprendre un petit peu vie et puis pour écrire, pour revenir plus tard sur la scène avec un nouveau triomphe littéraire, ce qui ne sera pas exactement le cas, même s'il y rédige quand même la ballade de la Géole de Reading, mais qui sera publiée un petit peu plus tard.
Et Wilde avait un pseudonyme, je crois, pour son voyage en France.
Oui, Sébastien Melmotte, c'était donc un pseudonyme, tellement le nom de Wilde était honni et qui était une référence à un écrit célèbre de son grand-oncle.
De son oncle Mathurin. Et d'ailleurs, ce roman, Melmotte l'Homéran, a été traduit par un autre écrivain qui, en français, qui lui non plus n'a pas été très heureux et qui était Antonin Artaud. Et à ce moment-là, enfin juste avant le moment où Wilde revient, une pétition avait été organisée en faveur de Wilde, je crois, à Paris, et c'est le seul endroit au monde où ça s'est produit, parce que Paris était une ville un peu plus ouverte et plus libérale que Londres, et ne parlons pas de Berlin et des autres villes, non ?
Alors, la pétition n'a pas remporté tout le succès qu'on aurait pu espérer, mais il y a quand même de grandes figures comme Octave Mirbeau, par exemple, qui prendront cette défense de White. C'est pas évidemment tout à fait quelque chose qui pouvait impressionner des juges en Angleterre, mais au moins il y a eu ce mouvement.
Non, mais c'était assez beau. C'était assez beau. Et je crois que Sarah Bernard avait promis d'acheter les droits de Salomé pour couvrir les frais du procès, mais qu'elle a refusé. Elle devait être très occupée à autre chose.
Elle n'a pas dû refuser, elle a promis, elle a oublié.
Il y a André Gide a signé, mais Gide n'était pas très très connu à l'époque, donc ça n'engageait pas à beaucoup de conséquences. Un de ceux qui a, et les gens très connus ont refusé de signer, par exemple François Copé, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, à part qu'il a une avenue dans Paris et un café à côté, et qui était un poète misérabiliste.
Mais riche.
Ça rend milliardaire d'être misérabiliste, j'en parlais à Houellebecq récemment. Et en plus, lui, ça l'a rendu de l'Académie française, et il a accepté de signer, mais en tant que membre de la SPA, disant « un port écrivain est toujours un port ». C'était un homme d'esprit, n'est-ce pas? Alors, et puis la presse l'a abandonné aussi. Il y a eu une page entière dans le Figaro qui traitait de Wilde, de fumiste, qui ridiculisait son apparence physique. Enfin, il est revenu à Paris, pas complètement applaudi.
Au moins, il a pu survivre à Paris. Il a pu quand même bénéficier de quelques soutiens. Il a eu la tristesse, évidemment, de voir certains de ses anciens amis se détourner de lui. Même Gide, à un moment donné, il le recroise à Paris et il lui fait signe. Il est dans la terrasse et Gide finalement accepte de s'asseoir avec lui, mais il veut se mettre de dos un peu. Et
Wilde,
qu'on a parfaitement conscience, lui dit absolument non, asseyez-vous là. Enfin voilà, de manière très, 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 très visible. Gide, qui d'ailleurs, par ailleurs, l'aidera et puis publiera juste après sa mort des articles, un opuscule, etc. Mais sur le moment, il y a une certaine gêne même à Paris, vis-à-vis de...
Oui, d'ailleurs, à propos de l'anecdote que vous citez à propos de Gide, Wilde a cette remarque assez belle, je trouve. Il dit « Quand jadis je rencontrais Verlaine, je ne rougissais pas de lui. J'étais riche, joyeux, couvert de gloire, mais je sentais que d'être vu près de lui m'honorait, même quand Verlaine était ivre. » Et lui, ça ne lui est pas arrivé, le pauvre Wilde. Est-ce qu'il y a des choses relatives au procès dans l'exposition du Petit Palais, Christophe Leribon?
Quasiment tout. C'est-à-dire depuis la carte de visite insolente jusqu'à des différentes pièces.
Qu'est-ce que c'est
la carte
de visite
contenant les insultes à de Queensberry, les réponses de Bozzi, son amant, des pièces du procès, bien sûr, un interview aussi de Robert Badinter qui développe la question du procès, des plaidoiries, de cette impasse dans laquelle White s'était quand même jeté à corps perdu.
Oui, c'est vrai. Et alors, à Paris, à ce moment-là, Wilde mène une vie d'hôtel en quelque sorte. Il va d'un hôtel à l'autre, ou est-ce qu'il est descendu?
Alors de toute façon, c'est très 19e de vivre à l'hôtel, hein. Simplement, selon les circonstances, soit on est à l'hôtel Continental ou au Ritz, ou dans des pensions plus modestes. Dans ses précédents voyages, il était à l'hôtel Voltaire, etc. Quand il revient à Paris dans les années, donc en 1899 et 1900, il est rue des Beaux-Arts, hein. D'abord à l'hôtel de Nice et ensuite à l'hôtel d'Alsace, qui existe toujours sous un autre nom, un hôtel réputé miteux à l'époque. Plus maintenant, on est au cœur de Saint-Germain-des-Prés. En fait, le tenancier est assez gentil avec lui, évidemment, bon, parce qu'il ne paye pas évidemment tout ce qu'il faut. Quand tu lui présentes la note, il aurait dit « je meurs au-dessus de mes moyens ». En tout cas, c'est un endroit qui existe toujours.
Le tenancier est venu à l'enterrement et Wilde passe pour avoir dit le jour de sa mort, on doit embellir un peu en regardant le papier peint qui était affreux, il passe pour avoir dit il me tue, il faut que l'un de nous deux s'en aille. Et une autre fois, quand il était à l'hôtel Voltaire, un ami vient le visiter, je ne sais plus qui, et il lui dit « Ah, quelle belle vue sur la Seine !» Et Wilde lui dit « Je ne sais pas, un gentleman ne regarde pas par la fenêtre. » Est-ce que vous regardez par la fenêtre, les belles fenêtres du Petit Palais de temps en temps, Christophe Leribaud?
Ah ben, il faut voir le panorama. Et de l'hôtel Voltaire, il faut quand même savoir que Pissarro y avait loué une chambre pour peindre le paysage.
Ah oui. Dites-moi, est-ce que le Petit Palais a pu être vu par Oscar Wilde?
Alors on peut l'imaginer.
Parce que vous avez été construit quand, si je puis dire?
En 1900. On n'imagine peut-être pas Wilde invité à l'inauguration officielle, bien sûr. Il est peut-être passé devant le Petit Palais, mais je ne sais pas s'il a visité l'exposition universelle. Ça restera. En tout cas, on l'honore 100 saisons après.
Il faut l'inventer. Il faut l'inventer, puisqu'il y a tellement de légendes autour de Wilde. Il faut dire qu'un jour, il est passé devant le petit palais en train de se construire et il a dit 100 ans après, un Christophe qui sera un saint me vouera une exposition. Quelle est la pièce la plus frappante pour vous, que vous montrez, que vous préférez, que vous trouvez la plus touchante dans cette exposition sur Wilde, à titre purement personnel?
D'un point de vue esthétique, un grand tableau de Stanhope qu'il a décrit dans une de ses chroniques artistiques au début de sa carrière, qui représente l'amour et la jeune fille, un tableau pré-raphaélite tout à fait séduisant. Maintenant, les pièces du procès sont évidemment poignantes, puisque ce sont des très modestes pièces administratives, évidemment, qui illustrent vraiment le drame que l'on connaît dans les textes qu'il en a transcrits.
Est-ce qu'il y a des pièces de vêtements de Wilde ou des objets lui ayant appartenu?
Alors, il y a quelques souvenirs personnels, moins peut-être que pour d'autres écrivains, puisque au moment du procès, il est obligé de... Tous ses biens sont vendus à l'encan, y compris sa bibliothèque, y compris des pièces tout à fait passionnante. Et puis personne s'est vanté ensuite d'avoir acheté quelque chose à cette vente. Donc les objets ont perdu leur provenance.
Et puis Christophe Le Ribaud, il y a aussi quelqu'un que Wilde aurait rencontré, peut-être le plus grand écrivain de ce que nous aurons cité dans cette émission avec Mallarmé, qui est Marcel Proust.
Les circonstances de leur rencontre sont un peu floues. Il y a pas mal d'anecdotes à ce sujet. Est-ce que l'on... retient, c'est que invité chez Proust, il attend en fait dans le salon avec ses parents, puisque Proust est encore dans sa chambre, met du temps à venir, et puis un peu à bout de conversation, il se serait écrié « Que c'est laid chez vous !» Phrase qui a été reprise par Proust dans la bouche de Charlus. Mais évidemment, les deux personnages, c'est peut-être pas fait directement pour s'apprécier, l'un évidemment beaucoup plus extraverti, beaucoup plus mondain que l'autre, l'un peut-être ayant mis...
Beaucoup plus mondain.
Non, pardon. L'un ayant peut-être mis suivant les propos de Gide, hein, son talent dans son œuvre et son génie dans la vie, et peut-être que Proust a commis l'inverse.
Au début de cette émission, je parlais des malheurs de Wilde. Eh bien, je pense que cette idée du malheur doit être chassée. Elle est trop facile pour nous. Elle nous fait oublier que mieux que le malheur, il y a eu la création, la littérature, le génie de Wilde, qui s'est déclaré au moins dans deux grandes œuvres, qui sont évidemment Le portrait de Dorian Gray et L'importance d'être constant. Et pour finir, comme souvent dans Secret professionnel, je vais laisser la parole à celui dont on parle. Et Oscar Wilde, traduit par moi, achèvera donc cette émission. Il s'agit de trois de ses maximes pour l'éducation des trop instruits que voici. L'évidence est la seule chose que l'artiste soit incapable de voir. L'évidence est la seule chose que le public soit capable de voir. Résultat, l'esprit critique du journalisme. La seule chose sérieuse, c'est l'art. Et le seul à n'être jamais sérieux, c'est l'artiste. On ne devrait jamais écouter. L'indifférence d'un auditeur se signale par son attention. C'était Secret professionnel, le 226e. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Philippe Bredin, recherche INA Constance Lloyd. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.